Ouais, on va parler GPS et positionnement mondial par satellite. Donc, il faut savoir que cette technologie, elle a été envisagée et développée dès les années 60 par les USA. L'ancêtre du GPS, Transit, était utilisé par l'armée américaine depuis 1964, tout en travaillant à la conception du système GPS, dont le premier satellite a été mis en service dans les années 80. Depuis, donc, toutes les grandes puissances ont décidé de se doter de chacune de sa propre constellation de satellites. C'est comme ça qu'on parle d'un ensemble de satellites de positionnement. Donc, tout d'abord, les États-Unis avec le GPS, le Global Positioning System, une constellation de 24 satellites qui est le plus connu et le plus utilisé car le pionnier du genre.
Et les satellites sont régulièrement renouvelés, hein.
Oui. Et il faut aussi compter sur le système russe GLONASS, GLONASS, né lui aussi dans les années 80, pendant la pleine compétition entre technologique et militaire contre les USA, qui est composé lui aussi de 24 satellites et pleinement opérationnel depuis 2010. Ne pensez surtout pas que GLONASS est réservé aux anciennes républiques soviétiques, car vous l'utilisez peut-être déjà, puisque d'une part c'est un système mondial et que depuis 2012, tous les smartphones, enfin beaucoup de smartphones sont équipés de puces pouvant utiliser les deux systèmes, donc GPS et GLONASS.
Ce qui permet d'avoir une plus grande précision, puisque des fois il faut avoir la visibilité sur trois satellites.
Quatre.
T'as bien révisé.
L'Europe, elle, est challenger dans le domaine avec le système Galileo, qui est encore en cours de déploiement avec seulement quatre satellites en orbite.
En orbite.
Oui.
Je crois qu'ils en ont loupé. Hein.
Ouais, je vais en parler. Le programme était initialement prévu pour se terminer en 2020, mais le mode de financement public-privé retarde malheureusement le programme. Il faut évoquer aussi les systèmes japonais, donc QZSS, le système indien IRNSS et le chinois Beidou, qui n'ont pas vocation à être mondiaux, mais uniquement des systèmes de géopositionnement local. Alors comment ça marche tout ça? En mesurant le temps parcouru entre le signal et un satellite donné, le récepteur peut déterminer une position. En effet, la distance fois le temps, la distance, en faisant un facteur entre la distance et la vitesse, je vais y arriver. En faisant un facteur entre le temps et la vitesse, on obtient la distance. La vitesse du signal étant celle de la lumière. La triangulation a besoin d'au moins 4 satellites pour résoudre les 4 inconnus. X, Y, Z et T, c'est-à-dire la latitude, la longitude, l'altitude et le temps. Dès lors, la mesure du temps devient une donnée cruciale et les horloges utilisées doivent être ultra précises. En effet, le signal voyageant à la vitesse de la lumière, une désynchronisation de 10 millisecondes provoque une erreur de position de 3 000 km. À propos du système GPS, la précision a été limitée à 100 mètres pour des usages civils jusqu'en 2000. Ceci afin de conserver pour l'armée américaine un avantage stratégique. Comment mettre des horloges ultra précises dans des satellites? Et ben, on trouve deux types d'horloges. Il y a les horloges au maser. Un maser, c'est l'équivalent d'un laser, mais avec des micro-ondes à la place de la lumière. Ça émet un faisceau constant de micro-ondes qu'on peut exploiter pour obtenir une fréquence d'horloge. L'autre type d'horloge, c'est les horloges atomiques au césium, qui fonctionnent en comptant les désintégrations d'un noyau de césium radioactif. Ces deux technologies permettent d'obtenir des horloges de référence très précises.
C'est pas exactement la désintégration, mais j'y viens tout
Oui.
à l'heure.
Cette précision se mesure en dérives par jour. Pour une montre à quartz que vous pouvez par exemple avoir au poignet, elle est de 1 seconde par jour. Pour le GPS, de 10 nanosecondes par jour. Et de 10 picosecondes par jour pour les horloges atomiques les plus précises. La possibilité de synchroniser une horloge sur une constellation GPS est très pratique pour des projets scientifiques dans des régions reculées où ces satellites sont la source de temps la plus fiable. Ainsi, des appareils de mesure autonomes peuvent rester parfaitement à l'heure. Mais ce n'est pas la seule utilité de ces satellites en matière de recherche scientifique. Fin août 2014, le lancement des satellites 5 et 6 de la constellation Galileo a échoué. Ils n'ont pas pu atteindre leur orbite à cause d'un défaut de conception. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, essaye malgré tout de corriger leur trajectoire pour leur faire atteindre l'orbite voulue, mais en attendant, DORESA et MILENA, donc c'est le nom des deux satellites, à travers l'expérience Gravity Probe, vont pouvoir tester la théorie de la relativité d'Einstein, en mesurant l'effet de la gravité sur le temps lui-même. Cela étant possible grâce aux horloges atomiques embarquées dans les satellites dont nous parlions plus tôt. Ainsi, ces satellites, en plus de nous renseigner sur notre position et l'heure, vont peut-être bientôt nous aider à comprendre la nature même du temps et de l'espace.
À noter que la deuxième interview qui était prévue pour cette émission était l'un des responsables donc d'un programme de l'ESA qui s'appelle voilà, ça y est, j'ai oublié, je l'avais noté, excusez-moi, qui s'appelle Pharao, voilà, donc qui consisterait à placer donc une horloge atomique au sein de l'ISS, donc de la Station Spatiale Internationale. Normalement, cette expérience doit être mise sur orbite cette année justement pour pouvoir vérifier que donc le temps s'écoule moins vite sur Terre que dans l'espace, et donc essayer de trouver un nouveau référentiel de temps, ce qui va pas simplifier la gestion des bugs sur les décalages par seconde.